En ce 2 septembre, nous accueillons l'abbé Philippe Beitia. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler des martyrs de la Révolution française, puisqu'il y en a eu.
Oui, des martyrs de la Révolution française qu'on a l'habitude, de les nommer les martyrs de septembre, de septembre 1792.
C'est la terreur, c'est à cette époque-là ?
C'est le début de la terreur. La terreur, c'est les années qui vont suivre. Donc, les martyrs de septembre, ce sont 191 martyrs, on compte 3 évêques, 127 prêtres séculiers, c'est-à-dire non religieux, 56 religieux et aussi 5 laïcs.
Donc 191 martyrs, et parmi ces martyrs ?
Parmi ces martyrs, il y a un de nos compatriotes qui est François Dardan, le bienheureux François Dardan.
Alors, qui était François Dardan ?
Alors, bien sûr, le père Arbalbide pourrait en parler avec bien mieux que je ne le fais. Mais donc, François Dardan, il naît à Isturitz. Il est ordonné prêtre le 5 juin 1762. Il va enseigner au séminaire de la Ressort et en être quelque temps le supérieur. Bon, cette période de la Ressort va durer une dizaine d'années. Puis il va monter à Paris et il va être confesseur au Collège de Sainte-Barbe. Le Collège de Sainte-Barbe, ce sont des étudiants et des professeurs. C'est là où Saint-François-Xavier, d'ailleurs, avait fait ses études durant une vingtaine d'années. Il est dans la communauté des eudistes, sûrement sans lettres.
Comment ça se fait qu'il soit parti du Pays Basque pour aller à Paris ?
Oh, ça, je l'ignore. J'ignore pourquoi il est parti à Paris, mais effectivement, bon, même aujourd'hui le jour, ben voilà, il y a des prêtres du diocèse qui sont partis à Paris, dont votre serviteur, pour quelques années. Bon, bien souvent, ça peut être parce qu'il y a un service à rendre, parce qu'à un moment donné, on veut exercer un ministère qui nous soit davantage adapté durant quelques années. Enfin, c'est d'ordinaire ce genre de motivation. On peut penser que pour François Dardan, ça a été quelque chose de cet acabit.
Il va faire partie donc de ces martyrs de la Révolution et de ce qu'on appelle les martyrs des Carmes. Pourquoi des Carmes ?
Donc parce que, si vous voulez, quand ces prêtres ont été arrêtés, prêtres et laïcs, prêtres religieux et laïcs, ils ont été enfermés, emprisonnés dans diverses maisons religieuses, à l'abbaye, à la Force, et au Carme, mais comme son nom l'indique, c'était un monastère de Carme, voilà, de religieux Carme.
Alors que va-t-il se passer le 2 septembre 1792 ?
Alors, le 2 septembre, il faut peut-être parler avant un peu de ce qui mène au 2 septembre 1792.
Le contexte révolutionnaire de l'époque.
Alors, il y a un contexte d'abord un peu lointain. C'est d'abord, il y a l'idéologie des Lumières. Les philosophes, les encyclopédistes qui ont inspiré la Révolution ont voué une haine solide à la religion catholique et à ses ministres. Et Voltaire, en parlant de l'Église catholique, dira « écrasons l'infâme ». Donc ces idées se sont répandues dans l'aristocratie et aussi dans le peuple. Donc il y a donc une raison un peu lointaine. Il y a ensuite le fait qu'on a tenté d'établir ce qu'on pourrait appeler une église nationale, séparée de Rome. Voilà. Les curés devaient être élus, les évêques devaient être élus, ce à travers la constitution civile du clergé. Alors bien sûr que le Saint-Siège va être consulté, mais le pape Pie VI va mettre du temps pour répondre. Parce que bon, il a voulu beaucoup consulter lui-même, bon, ça a mis du temps. Bon, ce qui fait que les événements se sont... Et puis il va y avoir des événements politiques. Le 10 août 1792, c'est la prise des Tuileries, c'est... par des sections de la commune insurrectionnelle, l'Assemblée est assiégée et c'est la fin de la monarchie constitutionnelle, ce qui va mener Louis XVI à la guillotine. L'année précédente, 1791, c'est la fuite Varennes, bon, avec une décrédibilisation, bien sûr, du roi. Puis, donc, ça c'est en août, mais un mois auparavant, en juillet 1792, c'est le début de l'invasion prussienne, la prise de Longwy, le 13 août, par les armées du duc de Brunswick. Et donc, ben, on va considérer qu'il y a le danger extérieur, il y a un danger intérieur. Alors voilà ce que disait un texte sur des feuillets qu'on a répandus à l'époque. Le danger imminent où se trouve la patrie ne résulte pas seulement de l'entrée des troupes ennemies sur le territoire français, mais bien de ce nombre de malveillants que renferme la capitale de ces conspirateurs détenus dans la prison, dont le jugement est retardé sous divers prétextes. Il n'y avait d'autre moyen que de faire faire sur le champ justice prompte de tous les malfaiteurs et conspirateurs détenus dans les prisons. Et c'est une motion qui va être donc adoptée. Il va y avoir auparavant arrestation des prêtres, dont François Dardan, qui n'ont pas accepté la constitution civile du clergé. Donc ils vont être emprisonnés dans les lieux que j'ai indiqués tout à l'heure. Et pour ce qui est des Carmes, le 2 septembre 1792, eh bien, vers 16 heures, vous avez donc le massacre des Carmes.
Comment ça se passe exactement ?
Dans un premier temps, bon, les Carmes, enfin, aujourd'hui encore d'ailleurs, mais moins qu'à l'époque, vous avez le monastère et vous avez un immense jardin qui occupe même une partie de ce qu'est aujourd'hui la rue de Rennes. Donc il va y avoir des gens qui vont rentrer là, qui vont tuer quelques prêtres et évêques qui se trouvent dans le jardin, certains en train de prier, mais bon, on a voulu quand même donner un semblant de légalité à cette affaire. Donc, on va arrêter ces massacres et on va convoquer tous ces prêtres qui étaient enfermés dans l'église des Carmes, qui ont prié dans l'église des Carmes. Le dimanche, ils ne célébraient pas, donc ils passaient le temps qu'ils auraient eu à dire la messe en prière. On va les convoquer et donc on va leur demander s'ils ont prêté serment, le serment de fidélité à la constitution civile du clergé. Et donc, sur leur négative, on va les faire passer par un petit couloir qui existe toujours. Et au bout, donc, ils étaient massacrés en descendant au jardin par un petit escalier qui existe encore. Et vous avez actuellement une plaque, Ikchechiderund, c'est là qu'ils sont tombés.
Donc ça, c'est le 2 septembre 1792, le martyr des Carmes, dont François Dardan. Alors comment va se passer ensuite le procès en béatification ?
Alors, dans un premier temps, ça va être un tel massacre qu'il va y avoir une grande réprobation, ce qui fait que les gens vont se rejeter la responsabilité les uns sur les autres. Le procès de béatification va être entrepris bien tard. Il va être ouvert en 1900, donc tout à fait au début du XXe siècle. Et donc, il va y avoir une difficulté. La difficulté, c'est la suivante, que va souligner ce qu'on appelle l'avocat du diable. Est-ce qu'ils ont été tués pour raison politique ou est-ce qu'ils ont été tués en haine de la foi ? Si c'est pour raison politique, on ne peut pas les considérer dans l'Église comme des martyrs. Si c'est en haine de la foi, bien entendu qu'on le peut. Ça va être assez difficile, ça a failli faire capoter le procès en béatification. Le fait est que, bon, à la fin des fins, après étude et après débat, bien voilà, on va considérer que c'est en haine de la foi catholique que donc ils sont morts.
Ils vont être béatifiés en quelle année alors ?
Donc ils vont être béatifiés par le pape Pie XI en 1926. Alors donc Pie XI, dans un discours qui n'est pas publié dans les actes apostolici sedis, va dire que c'est à cause de leur fidélité au Saint-Siège, la fidélité au pape que la constitution civile du clergé, marginalisée, qu'ils sont morts. Puis on va dire qu'il y a d'autres façons d'être martyr en vivant donc la vie chrétienne.
Pour terminer, Abbé Philippe Beitia, est-ce que vous pouvez nous proposer la prière, l'oraison qui est donnée le jour du 2 septembre ?
Alors, donc, l'oraison souligne que s'ils ont été mis à mort, s'ils sont martyrs, c'est parce qu'ils ont défendu avec force la foi catholique et les droits de l'Église. Les droits de l'Église étant donc la communion avec le successeur de Pierre. Et elle va nous faire demander, cette oraison, que, fortifiés par l'esprit de force, bien nous soyons fidèles au service de Dieu jusqu'à la mort.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beitia, de nous avoir parlé des martyrs des Carmes, dont fait partie le bienheureux François Dardan, originaire d'Isturitz, qui a donné son nom à la paroisse d'Asparin en 1998, la paroisse du bienheureux François Dardan. Merci à vous.
Au revoir.